VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité. Dans moins de 5 minutes, notre cours d'anglais. Mais juste avant, un résumé des principales nouvelles du monde. Le parti au pouvoir au Burundi a qualifié ce lundi de provocation les sanctions récemment infligées par l'Union européenne à 4 personnalités burundaises, assurant qu'elles visaient des individus d'une seule ethnie. Le 1er octobre, l'UE a interdit le voyage et gelé les fonds de 4 personnalités compromettant la démocratie ou impliquées dans des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence au Burundi. 8 personnes ont été tuées selon la police burundaise dans des affrontements ce week-end à Bujumbura entre les forces de l'ordre et résidents s'opposant au troisième mandat de Pierre Nkurunziza.
Les populations des quartiers Mutakura et Chibitoke ont passé un samedi cauchemardesque avec des explosions de grenades, des tirs à l'arme lourde. C'était des policiers de la brigade anti-émeute avaient commencé dans la journée. Les habitants de ces zones contestent toujours le troisième mandat du président burundais réélu en juillet dernier. Le porte-parole de la police affirme que 8 criminels y ont perdu la vie, tandis que des sources des habitants parlent d'une quinzaine de morts parmi la population civile. Même si le porte-parole de la police parle de 4 policiers blessés, la population indique que des dizaines de policiers sont donnés plus de précisions et ont trouvé la mort, et la nuit était vraiment longue pour les habitants de la commune Nahangwa, au nord de la capitale. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La flambée de violence qui a embrasé Bangui fin septembre a fait 61 morts et 300 blessés, a annoncé aujourd'hui le gouvernement centrafricain, révisant à la hausse de précédents bilans faisant état d'une quarantaine de morts. La fièvre de la vallée du Rift, maladie qui touche principalement les animaux mais peut aussi contaminer l'homme, a fait un mort en Mauritanie où une quinzaine de cas suspects étaient sous surveillance lundi, selon des sources sanitaires à Nouakchott. La fièvre de la vallée du Rift, du nom de la région du Kenya où elle a été identifiée en 1931, avait fait 17 morts en Mauritanie, on se le rappelle, en 2012. Et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle à la tenue rapide d'élections présidentielles et législatives crédibles et apaisées au Burkina Faso. Le patron de l'ONU s'est exprimé suite à une rencontre avec le président de transition, Michel Kafando, rétabli dans ses fonctions après un coup d'État manqué à la mi-septembre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au moins 50 morts et plus d'une centaine de blessés, bilan d'une nouvelle série d'attentats à la bombe ce lundi en Irak. Le plus important visait un marché bondé de chiites dans le nord du pays. Il a fait 35 morts. 10 autres personnes sont mortes dans un marché de Zoubeïr non loin de Bassora, dans le sud, plus près de Bagdad, dans la localité de Hosseinia. L'explosion d'une voiture piégée a fait 5 morts. Tension entre l'OTAN et Moscou autour des frappes aériennes de l'aviation russe en Syrie. Des voix s'élèvent pour dénoncer la duplicité de la Russie, qui vise plutôt les positions des rebelles modérés hostile au régime de Bachar al-Assad.
41 groupes rebelles syriens opposés au régime de Bachar al-Assad affirment dans un communiqué que la brutale occupation russe a coupé la route à une solution politique. Des voix s'élèvent aussi à l'OTAN. Le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, a appelé Moscou à affronter la menace posée par les groupes État islamique plutôt que de continuer ses frappes aériennes unilatérales contre l'opposition à Assad. Il estime que le fait d'avoir ciblé les rebelles n'est pas un accident.
Eddie Isango. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a demandé lundi à l'Iran de faire pression sur son allié syrien pour favoriser un règlement pacifique du conflit en Syrie. M. Ban a lancé cet appel alors qu'il recevait le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Une zone de sécurité le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie, c'est ce que souhaite Ankara. En tout cas, malgré la réticence de l'Union européenne, le président du Conseil de l'Europe a déclaré aujourd'hui que l'organisation est prête à discuter de tous les sujets avec la Turquie. Le ministère de la Justice américain et 5 États ont finalisé un accord de 20,8 milliards de dollars pour régler les réclamations contre BP pour le déversement de pétrole de la plateforme Deepwater Horizon en 2010 dans le golfe du Mexique.
L'accord annoncé lundi concerne les réclamations civiles des gouvernements en vertu de la loi Clean Water et des dommages liés aux ressources naturelles. Il couvre également les demandes de dommages économiques des 5 États du Golfe, l'Alabama, la Floride, la Louisiane, le Mississippi et le Texas et leurs gouvernements locaux.
Nathalie Barge. Les États-Unis, le Japon et 10 autres pays de la zone Pacifique sont parvenus à un méga accord de libre-échange qui va réduire les tarifs et réglementer le commerce pour 40% de l'économie mondiale. Nouvelle du monde, ici chez Robin Dorsil.
Merci à Gabi pour ces nouvelles du monde en 5 minutes. Et vous avez sans doute reconnu l'indicatif, c'est votre émission interactive. Bonsoir, chères auditrices, auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons de la Guinée où les violences troublent la sérénité des prochaines élections et qui semblent réduire l'espoir d'un scrutin crédible et transparent. Des affrontements à Nzéré-Koré dans le sud-est entre des militants du RPG au pouvoir et des partisans de la principale formation de l'opposition UFTG ont fait au moins un mort et plus d'une vingtaine de blessés. Mais 80 blessés selon des ONG. Toutefois, la CENI se dit prête techniquement pour conduire les opérations de vote le 11 octobre. Comment assurer des élections apaisées? Le risque d'instrumentalisation de balkanisation ethnique est-il réel? C'est les questions auxquelles on va essayer d'apporter des réponses avec nos invités qui se trouvent à Conakry. Je vous présente d'abord M. Amadou Tam Camara, qui est président de la Maison de la Presse et directeur du site guineanews.org. M. Amadou, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir aux millions d'auditeurs.
Bonsoir à vous aussi. Nous aurons également le responsable des opérations à la CENI, Étienne, que nous tentons de joindre. Nous allons peut-être l'avoir tout à l'heure. Et nous aurons aussi des auditeurs qui vont nous appeler partout du continent africain. Nous avons aussi des commentaires postés sur notre page Facebook, voanews.com. À Washington, c'est Eric Manirakiza qui est avec vous depuis le studio 10. Voilà, Monsieur Amadou, vous êtes là. Est-ce que vous êtes inquiet de ces violences de ce week-end?
Oui, c'est vrai qu'on a quelques appréhensions quand on connaît un peu ce qui se passe dans ce pays depuis ces 10 dernières années. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a des signes quand même qui disposent à des élections qui vont se passer pas dans la plus grande sérénité, parce que la ville de Nzéré-Koré, qui se trouve au sud-est du pays, est une ville qui a la sulfureuse réputation d'être marquée assez souvent par des violences interethniques. Quand cela arrive à quelques jours de l'élection présidentielle, il y a de quoi être inquiet.
Mmh. Quels sont les derniers développements de la situation?
Il faut dire que les autorités ont, dans la soirée, instauré un couvre-feu, parce que les violences qui se font à Zéro, généralement, ce sont des violences nocturnes. Donc, pour mettre fin à tout cela et pour pouvoir enrayer ou endiguer un peu la profondeur des violences, les autorités ont instauré un couvre-feu la soirée. Et puis, les forces de l'ordre sont notamment... Les forces de l'ordre, mais aussi l'armée, est déployée dans la ville pour sécuriser les parties les plus chaudes.
Mmh. Aujourd'hui, vous avez connu un retour au calme. S'agit-il d'un calme éphémère ou un calme qui va se stabiliser?
Nous espérons que ce sera un calme qui va se stabiliser. C'est vrai que le calme est revenu, mais il y a la tension. Il y a la tension, vous savez, Nzéré-Koré, c'est une ville assez cosmopolite. C'est un secret de Polichinelle. Les compétitions électorales en Afrique, notamment en Guinée, sont des occasions pour exacerber les tensions interethniques. Cela se ressemble beaucoup plus dans les villes où il y a beaucoup d'ethnies et beaucoup de tribus. La ville de Nzéré-Koré est une ville assez cosmopolite et les gens ont du mal, les gens se tolèrent, mais sans véritablement s'accepter. Et cela se ressent beaucoup plus au moment où les compétitions électorales s'approchent.
Mmh. Restez à l'écoute, monsieur Amadou. Nous recevons un auditeur, je crois, du Tchad. C'est Lassina Berthe. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Lassina Berthe au Mali.
Ah, au Mali. Je m'excuse. Vous...
Oui,
vous dites qu'il faut que les dirigeants africains changent leur mentalité pour faire des élections paisibles et transparentes, car les élections sont faites dans les moments de joie. Et vous dites, notre frère guinéen doit faire très attention. Les politiciens amateurs, au lieu de nous... vous dites qu'il faut proposer des programmes pour lutter contre le chômage, etc. C'est votre commentaire sur notre page Facebook.
Oui, c'est ça.
Oui. Vous avez entendu tout à l'heure ce que...
Je vais dire encore que vous savez, le problème des Guinéens, là, c'est un problème sérieux.
C'est un problème d'eau
c'est un problème sérieux, quoi. À chaque fois qu'il y a des élections en Guinée, les violences, ça commence, on dirait que c'est même pas une élection. Je vois quand même que c'est temps maintenant que les peuples Guinéens même fassent que, avant de venir au pouvoir, il faut amener des programmes pour diminuer le taux de chômage.
Oui.
Le programme qui fait développer le pays, quoi, les chefs d'État africains, il y a beaucoup entre eux qui ne mettent ce programme-là. Pour voir même les cas même d'Alassane Ouattara qui est en Côte d'Ivoire. Il est venu au pouvoir avec l'inclin, mais maintenant ça va maintenant mieux par rapport aux autres pays.
Merci Lassina pour votre commentaire. Voilà. Et tout à l'heure, on va solliciter à M. Amadou pour... apporter une réponse, mais nous recevons d'abord Benjamin Akomabou. Benjamin, bonsoir.
Ah.
Oui, vous nous recevez ?
Oui, je vous reçois très bien,
Votre commentaire sur la Guinée ?
Pardon ?
Votre commentaire, vous avez la parole.
Oui, sur la Guinée, par rapport à quel sujet, là ? Par rapport à quel sujet ?
Ah, vous avez posté même un message sur notre page Facebook, les élections et les violences qu'on a connues ce week-end.
Ah, sur la Guinée, bon, vous savez, en Afrique, c'est une habitude de ces violences que nous connaissons, mais le problème, c'est nos dirigeants qui... Au lieu d'essayer d'éviter ces violences, bon, ils n'y pensent pas, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Donc, voilà.
Oui,
voilà.
Mais les dirigeants, ils sont moins nombreux, alors que la population est nombreuse. Donc, la faute ne doit pas être attribuée seulement aux dirigeants. Il y a quand même la part de la population.
Bon, la population, vous savez, la population, elle est innocente. Et si vraiment les dirigeants africains pouvaient faire plus d'efforts pour éviter ces genres de violence, ce serait mieux pour l'Afrique. Moi, je condamne les dirigeants. Là, c'est parce que chacun se bat pour ses intérêts et on oublie le peuple. On laisse le peuple se livrer à lui et à elle-même.
Mais comment éviter la manipulation ? Parce que souvent, le peuple est manipulé.
Oui, le peuple est manipulé. Les dirigeants ne pensent qu'à leur poche, à leur famille. Et chacun se bat pour ses intérêts. Donc, ça ne peut pas marcher dans de pareilles circonstances.
OK, on va demander à M. Amadou de faire un commentaire sur ton intervention. M. Amadou, vous êtes là ?
Oui, je suis là, Eric.
Oui, que répondez-vous à notre auditeur ?
Bon, par rapport au premier auditeur, c'est vrai que par rapport à la responsabilité des dirigeants sur une bonne gestion des élections, il est évident que ceux qui sont aux affaires ont la première responsabilité d'abord de bien mener à bateau et d'organiser des élections intenses un peu crédibles. Mais cela devient plus facile si il y a un minimum de confiance et un minimum de confiance entre les différents acteurs en compétition. Mm-hmm. Malheureusement, en Guinée, il y a ce déficit de confiance. Il vous souviendra que en 2010, tellement que les acteurs ne se faisaient pas confiance, il a fallu que les acteurs fussent appel à un Malien qui est venu devenir le président de la Commission électorale nationale indépendante pour pouvoir donner le verdict, parce qu'il n'y avait pas un Guinéen en qui faire confiance qui pouvait diriger l'instance qui est en charge de la gestion de l'élection. Uh-huh. C'est dire à quel point les acteurs ne se font pas confiance, et tout ça sur fond de tribalisme, parce qu'il suffit ici d'appartenir à telle ethnie ou à telle ethnie pour que vous soyez estampillé de tel parti ou de tel parti politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce déficit de confiance fait que l'organisation de l'élection et sa crédibilité, avant même que l'élection ne soit organisée, est entachée. C'est un problème entier en Afrique, mais il reste particulier en Guinée.
Mmh. Est-ce que par rapport à 2010, l'on peut dire que le comportement des acteurs a changé ou...
Non, ça n'a pas véritablement évolué sur ce plan-là, parce que c'est la même frilosité, c'est la même méfiance vis-à-vis... ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2010, il y avait le président sortant était un président de la transition, donc il n'était pas lui-même en lice. Mais là, il y a un président sortant qui organise les élections, donc ça augmente encore le degré de parce qu'on suppose que à partir du moment où il est organisateur lui-même de l'élection et il est candidat, alors c'est là. Augmente encore le degré de frilosité, de méfiance vis-à-vis du président sortant. Quel que soit par ailleurs le bilan qu'il va avoir, tout concourt à augmenter la méfiance des autres acteurs vis-à-vis du président sortant.
Oui, nous allons maintenant recevoir le responsable des opérations à la CENI en Guinée, Monsieur Étienne. Bonsoir.
Oui,
nous avons déjà débuté notre émission depuis une bonne, bientôt 20 minutes. Nous parlons de ces violences qui ont émaillé, disons, l'environnement électoral. Nous décortiquons tous les contours de cette crise qui s'invite justement dans ce processus électoral en Guinée, et notamment la CENI a le rôle primordial à jouer dans la conduite des opérations de vote. Apparemment, la CENI est prête techniquement.
Écoutez, nous sommes engagés à faire en sorte que le déroulé technique de ces opérations électorales se déroule dans la sérénité. Donc c'est en cela que nous sommes engagés à mener ces opérations. Au stade où nous sommes, il nous reste essentiellement, on va dire, trois grandes opérations à mener.
Uh-huh. Lesquelles?
Les opérations. Vous m'entendez?
Oui, oui, on vous entend très bien.
Ok, donc les opérations. Vous avez toutes les opérations qui sont liées à la logistique, oui, notamment dans sa partie déploiement du matériel. Nous avons à ce stade-ci acquis l'essentiel du matériel, j'allais dire tout le matériel électoral, les imprimés, le matériel en gros. Nous avons reçu aujourd'hui les PV, les PV, les procès-verbaux et les enveloppes sécurisées. C'est le dernier arrivage que nous avons reçu aujourd'hui. Nous avons reçu il y a deux jours les bulletins. Nous avons reçu les isoloirs. Donc en gros, tout le matériel est aujourd'hui positionné au niveau de Conakry. Nous avons commencé le déploiement de ce matériel, qui s'est fait en présence même des partis politiques. Donc vous avez tout ce travail qui est en train d'être fait dans le cadre du positionnement du matériel au niveau d'abord de préfectures de la Guinée, et puis après au fur et à mesure nous procéderons à leur positionnement dans les bureaux de vote, dans les sous-préfectures, les districts et puis les bureaux de vote. Nous sommes aussi en train de travailler à l'organisation des formations. Il nous reste essentiellement trois grandes formations. La formation des agents de bureaux de vote, qui a commencé depuis hier. Et puis vous avez la formation des commissions de centralisation, qui a aussi commencé. Et puis va suivre la formation des commissions de réception, parce que initialement, ces personnes n'étaient pas formées, ils ne recevaient pas de formation, donc on s'était rendu compte à l'occasion des élections législatives qu'on avait mis des gens pour recevoir des prix qui n'étaient pas préparés à cet exercice-là. Donc on a décidé que ces personnes doivent aussi être formées. Donc vous avez ces trois formations qui sont en train de se dérouler aussi, conformément au chronogramme que nous avons établi, qui a été actualisé, mais tout se déroule normalement. Et puis après, vous avez tout ce qui a trait à la distribution des cartes. Vous savez, quand nous avons finalisé le travail qui a consisté à stabiliser le fichier électoral, dans sa partie notamment cartographie, sur le terrain, nous avions envoyé des missionnaires pour aller voir comment est-ce qu'on pouvait accepter et transférer les électeurs qu'on avait nouvellement recrutés dans le fichier, pour faire en sorte qu'en fonction des critères que nous nous sommes fixés, qu'aucun électeur ne soit au-delà de 5 km de son bureau de vote, et qu'aucun bureau de vote ne dépasse 700 électeurs, et qu'aucun bureau de vote ne comporte aussi moins de 150 électeurs. Donc ce travail a été fait, c'est un travail laborieux qui nous a pris du temps dans le cadre de la stabilisation de la cartographie. Tout cela est fini aujourd'hui, nous avons remis le fichier électoral aux différents candidats, et dans sa partie liste électorale et cartographie des bureaux de vote. Donc je crois qu'on peut aujourd'hui effectivement dire que la CENI est effectivement prête pour organiser ce scrutin le 11 octobre. C'est vrai qu'on peut aussi estimer que les délais liés à la distribution des cartes, parce que la loi dit qu'on peut le faire plutôt 30 jours, donc c'est vrai que pour l'essentiel, nous avons fait ça pour 15 jours, ce qui n'est pas contraire au principe de prescription légale. Donc je crois que c'est vrai que nous avons eu dans le cadre de la distribution des cartes des petites difficultés liées au fait que pendant la production, certains bureaux de vote ne recevaient pas à temps leur carte d'électeur. Mais je crois que ce sont des anomalies qui restent pour l'essentiel marginales au niveau de toute la Guinée. Et vous me suivez ?
Oui, on vous suit. Essayez d'être bref, okay, on va recevoir des...
Ce sont des anomalies qui restent, notamment le fait que tout le monde n'est pas... sa carte d'électeur, ce qui est marginal quand on voit le nombre de circonscriptions par rapport au nombre de circonscriptions qui sont concernées par cette anomalie-là. Uh-huh. Et je crois qu'un système est mis en place pour qu'on puisse corriger rapidement les circonscriptions où vous avez certains bureaux de vote qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Bon, écoutez, donc comme je le dis tantôt, nous sommes en train de faire en sorte que
tout
soit réglé pour aller aux élections le 11.
Ok. Restez à l'écoute, nous recevons Mohamed Kaba. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Oui, vous avez donc entendu le responsable des opérations à la CENI qui dit que tout est presque prêt pour aller aux élections le 11 octobre. Et vous, dans votre commentaire, vous dites que la campagne est basée sur l'ethnisme. Vous trouvez ça très bizarre.
Voilà. Le fait que les opposants, tout est basé sur l'ethnie, ça me fait craindre à un embrasement. Le fait que je trouve dans le débat politique guinéen, ça n'évolue pas. Chaque fois, c'est le même... C'est le même problème à l'élection précédente. c'était basé sur... tout est basé sur l'ethnie, quoi. Chaque fois, on amène le débat politique, au lieu de parler du programme, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour nous. Chaque fois, le débat est ramené toujours à l'ethnie. Ça, un exemple frappant est que tout récemment, là, on a vu la violence qui s'est passée
Très rapidement.
Qui était entre les partisans de Cheikh Alain Diallo et de le président actuel.
Oui.
Tout ça là nous fait craindre. Nous la population, c'est tout ça là notre inquiétude, quoi.
Merci Mohamed pour votre commentaire. Nous recevons Lansiné Baté Kaba. Lansiné, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Oui, vous dites que le plus important, ce n'est pas ni Alpha Condé, ni Selou Dalen Diallo, mais toi et moi devons prendre conscience et mener notre vie en paix, car les politiques cherchent à nous mettre en mal pour être célèbres internationalement. C'est ce que vous dites.
Oui. Oui, vous savez, en Guinée, ici, tout le monde se dit que c'est les politiciens qui divisent les Guinéens. Et nous sommes conscients maintenant que c'est les politiciens qui nous divisent. Pourquoi ne pas faire une prise de conscience, nous unir pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution adéquate pour faire avancer notre pays? Parce que aujourd'hui, l'opposition cherche des problèmes pour se médiatiser, dire que le pouvoir en place ne fait que violer les droits de l'homme. Il n'y a pas de respect des accords. Et le pouvoir en place fait tout pour diviser le peuple aussi encore pour régner. L'essentiel est que chaque jour, les jeunes de la capitale et à l'intérieur, nous assurons ensemble autour du Brada, on fait le thé. Mais c'est au moment des élections qu'il y a toujours des querelles là. Si le peuple, moi, Malinké, nous comprenions et nous laissons les politiciens faire leur politique, le jour du scrutin, on parle, chacun vote pour son leader et se retourne à la maison. Il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui pensent comme vous?
Oh, généralement, à Conakry, ce n'est pas tout le monde. Mais il faut faire une campagne de sensibilisation. Mais l'autorité aussi refuse de prendre des personnes capables de faire des sensibilisations. On choisit des personnes par affinité. On ne peut pas aussi évoluer dans ça.
Merci pour votre commentaire, Lansiné, et continuez à sensibiliser vos jeunes, tes amis, vos amis là-bas pour justement prendre cette conscience et de préserver la paix. Avant de prendre à notre auditeur, Georges Semsié, je ne sais pas si Étienne est encore là. Je pense qu'il y a un petit problème de téléphone, mais on va essayer de le rejoindre. Amadou, un commentaire très rapidement sur les observations de nos deux auditeurs.
Oui, c'est vrai que... grosso modo, ça reste un problème entier. Tout ce qui a été dit en Afrique, c'est, notamment en Guinée, sur le plan ethnique, est vérifié. L'appréhension que les gens ont, sur le fait que les gens, aujourd'hui, la boussole reste l'ethnicisme et non les autres critères, que ce soit... malheureusement sur le plan administratif, mais également sur le plan du choix électoral. C'est une triste réalité de la Guinée. C'est une réalité coloniale, c'est une réalité post-coloniale, c'est une réalité d'aujourd'hui. Et rien n'est fait malheureusement pour pouvoir améliorer ça. Et c'est ce travail de fond que